Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, ici Boris Chassagne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire aujourd'hui, on plonge au cœur du quotidien d'une immigrante récente qui vient donner un coup de main aux plus vulnérables. Originaire du Congo, Catherine Biaya est facilitatrice en santé communautaire à la Mount Carmel Clinic du Manitoba.
J'ai jamais vu une clinique avec tant de projets. Notre vision, c'est nous vous rencontrons où vous êtes, sans jugement. Si nous voulons une société durable et en santé, nous devons avoir des familles en santé durable. Et l'éducation, c'est la clé.
Et puis, on voit du pays. Aujourd'hui, on se promène d'abord dans les beaux quartiers de Vanier, en Ontario.
Vanier, c'est un quartier qui est vraiment extraordinaire, rempli de plein de diversité, des gens qui viennent de partout dans le monde. C'est ancré dans une francophonie historique.
Et on prend des nouvelles d'une super vagabonde qui revient d'une virée au Belize, aux États-Unis, en Australie, en Ukraine et en République dominicaine. Et oui, on lui en veut.
En Australie, ça a été vraiment un long périple de 9 mois. Puis tandis que mon périple au Belize a été quand même assez court.
Puis on va retrouver les mers, les couleurs et les accents des provinces atlantiques et de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon qui, ensemble, viennent de lancer une nouvelle coalition économique, la CAFE.
C'est la langue quand même qui nous connecte tous ensemble avec le peuple de Saint-Pierre-et-Miquelon et l'histoire acadienne est apparente là en même temps.
Bienvenue à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Notre premier arrêt, on le fait au Manitoba, à la Mount Carmel Clinic du Manitoba, où nous attend Catherine Biaya, l'invitée de notre journaliste Aurélie Nana-Forson. Aurélie, qui s'est intéressée au travail que fait la Mount Carmel Clinic, la première et la plus ancienne clinique communautaire du Canada, oui. La clinique a, depuis sa fondation en 1926, su adapter ses services aux besoins changeants exprimés par sa communauté. Pour la petite histoire, la clinique est inaugurée par la communauté juive de Mount Carmel en 1926 pour accueillir ceux qui fuyaient alors l'oppression en Europe. La Grande Dépression des années 30 conduit des personnes non juives à faire appel aux services de la clinique. Déjà en 1936, plus d'un tiers des clients de la clinique n'étaient plus d'origine juive. La Mount Carmel Clinic a au fil des décennies élargi le spectre de ses activités et services et dès 1940, elle met en place des programmes communautaires pour soutenir les nouveaux arrivants et les réfugiés de tous horizons, ainsi que les Métis et les gens issus des Premières Nations qui quittaient les réserves pour s'installer en ville. Aujourd'hui, la clinique continue de supporter la santé physique, mentale et économique de sa clientèle. Catherine Biaya, facilitatrice en santé communautaire à la Mount Carmel Clinic, est aussi immigrante originaire de la RDC, la République démocratique du Congo, de Saint-Boniface au Manitoba. Aurélie Nana-Forson est en compagnie de Catherine Biaya.
Comment ça va aujourd'hui, Catherine?
Ça va bien, merci.
Est-ce que vous pourriez nous en dire plus par rapport au poste que vous occupez à Mount Carmel Clinic?
Bien sûr, j'ai commencé à travailler là-bas depuis 2010. Je suis arrivée en 2007 au Canada, sponsorisée par le gouvernement. Et puis je suis allée faire les études en Red River College. Et j'ai fait mon stage là-bas et puis j'ai été engagée. C'est depuis 2010, je suis là-bas. Mon premier poste là-bas, c'était comme Community Development. J'étais engagée par Mont Carmel, mais j'ai travaillé pour l'Immigration et Citoyenneté Canada. Et mon rôle était d'être un lien entre les francophones et les anglophones. Et aujourd'hui, je suis facilitatrice en santé communautaire, toujours financée par l'Immigration et Citoyenneté Canada. Maintenant, je ne suis plus seulement focalisée avec les francophones. Je suis avec tous les nouveaux arrivants de toutes souches.
Donc, en plus d'être une facilitatrice, vous êtes aussi un peu une interprète?
Oui, je fais aussi beaucoup d'interprétariat.
Mm-hmm. Et donc, du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler avec Mount Carmel Clinic?
Leur approche, d'abord en 2009, j'ai été contactée pour être facilitée des différentes sessions. À l'époque, j'étais entraînée comme community-based educator. Et notre rôle était d'apprendre, par exemple, comment la gestion financière, comment élever les enfants dans une nouvelle société, comment prévenir la violence domestique et tout autre. Et on devrait faire le même session dans nos communautés, dans nos langues respectives. Et puis, je suis de la RDC, je parle le Swahili, je parle le Lingala, je parle aussi le portugais. Donc, on allait faire, et quand j'ai vu cette approche-là, c'était comme capacity building. Je me suis dit, ça, c'est ce que je veux. Et quand je suis allée à l'école, la première chose, je fais d'abord mon stage ici, en vol, en 2010, et puis mon dernier stage, je l'ai formé, Mont Carmel. Et au Mont Carmel, je leur ai dit, écoutez, nous venons d'une société où on aime dialoguer, on aime parler, on n'aime pas lire. Tu viens avec un livre là-bas, je vais mettre ça dans les tiroirs. Mais quand tu viens avec une histoire, quand tu partages une histoire, ça, c'est fascinant et les gens comprennent facilement. Alors c'est comme ça qu'on a commencé le programme des sessions, comme on dit, des sessions communautaires. Bon, en anglais, on appelle ça psycho-education, concernant tous les domaines qui régale les nouveaux arrivants pour leur permettre de s'intégrer facilement dans la nouvelle société et dans nos langues. Par exemple, si je vais dans la communauté congolaise, je vais utiliser le lingala et le français. Si je vais dans une communauté érythréenne, j'aurai un interprète ou une interprète qui parle leur langue, amharique ou bien tigrinya.
La clinique ne va pas seulement offrir des soins de santé, mais va également offrir des services de soutien.
Exactement. Donc, Mont Carmel s'est vraiment diversifié. Il y a différents programmes que je n'aurai pas vraiment le temps d'aller en détail, mais c'est vraiment multidisciplinaire. Moi, je fais seulement partie de Community Service. Et notre programme spécialement est appelé Multiculturel Wellness Program. La clinique a plusieurs programmes. Nous avons Sage House qui s'occupe de femmes qui font le travail de sexe pour avoir un lieu de support où quelqu'un peut leur parler, où ils peuvent avoir un bain chaud, faire des soins de santé et puis avec des conseillères. Nous avons ACT. ACT s'occupe de programmes de sans-abri et des gens le français est en train de m'effrayer.
Qui ont des problèmes d'addiction.
D'addiction,
finalement.
Voilà, merci, des problèmes d'addiction reliés à la santé mentale. C'est comment est-ce qu'on peut leur trouver des logements, prendre leurs problèmes en main avec les travailleurs sociaux, les EI. Ben, nous avons aussi un Mothering Project, où là, c'est vraiment un programme indigène, où on s'occupe de femmes, de jeunes filles qui sont mères, mais au même moment, ils ont des problèmes d'addiction et ils ont des enfants qui sont pris par le CFS, le service de la famille et de l'enfance. C'est vraiment, j'ai jamais vu une clinique avec tant de projets. C'est vraiment, notre vision, nous vous rencontrons où vous êtes, sans jugement. Et nous utilisons l'approche harm reduction, c'est-à-dire nous savons que ce sont des choix qui peut-être ne sont volontairement pas d'un individu, mais qui sont liés avec la santé mentale et l'addiction. Mais comment est-ce que nous pouvons faire que leur choix soit accompagné d'une façon qui n'est pas dangereuse? Donc c'est pourquoi au Mont Carmel, les gens viennent prendre les pipes pour leurs besoins, les condoms et tout. Donc, nous rencontrons les gens là où ils sont, sans jugement. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs activités, mais moi, je suis principalement avec les nouveaux arrivants. Mais nouvellement, nous sommes en train... Mont Carmel est en train d'être to be indigenized. Donc, aller dans le sens de comprendre et respecter les peuples autochtones. Alors, dans mon programme, il y a un programme qu'on appelle Bridging the Gap, donc où je mets ensemble les nouveaux arrivants et les peuples et les indigènes pour apprendre, comprendre quelles sont les choses qui sont similaires, parce que nous avons presque le même passé, la colonisation. Qu'est-ce est-ce qu'il y a des ressemblances? Où est-ce qu'il y a la différence? Et comment est-ce que nous pouvons construire une communauté où on ne se juge pas, où il n'y a pas, où il y a pas de stéréotypes et surtout le manque d'informations, bien de fausses informations. Souvent, on pense que les indigènes, oh, ce sont des paresseux, ce sont drug addicts, ce sont ça. Donc, mais qu'est-ce qu'en fait, quelle est l'histoire derrière ce comportement-là? Donc, c'est ce que je fais.
Et donc, du coup, quelle est la partie qui vous plaît le plus dans votre travail?
Oh, c'est quand je facilite de l'éducation, surtout comment élever les enfants dans la nouvelle culture. Vous savez, nous venons d'une culture différente. Par exemple, moi-même, ma mère n'a pas eu le temps de communiquer comme il faut avec moi. Elle utilisait toujours la force, la violence physique. Et pour moi, c'était normal. Mais comment est-ce que nous pouvons comprendre qu'ici, si nous voulons une société durable et en santé, nous devons avoir des familles en santé durable. Et ça commence par apprendre. Et l'éducation, c'est la clé. Et je sais que quand je prends mon chapeau de pasteur, je dis que mon peuple périt par manque de connaissances.
Bonjour, ici Marie Hillès à Ottawa, en Ontario. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Et puis on poursuit notre route, cette fois en Ontario, où Marie Hillès nous fait visiter le quartier francophone de Vanier. Vanier, de son ancien nom Eastview, est un quartier historiquement canadien-français qui se trouve en fait à quelques kilomètres à l'est du centre-ville d'Ottawa. Le quartier était une ville distincte jusqu'à sa fusion avec Ottawa en 2001. C'est un quartier résidentiel avec sa cabane à sucre urbaine, son marché fermier. Il y a aussi, on peut aussi faire du vélo le long de la rivière Rideau, y visiter un musée où l'on met en valeur l'histoire du quartier. Le quartier devient un centre important pour la communauté et la culture franco-ontarienne, notamment avec l'ouverture de la première école publique bilingue de l'Ontario. Marie Hillès s'est promenée dans le quartier de Vanier, recueillir au hasard les impressions des passants.
Vanier, c'est le nom du petit quartier populaire situé juste à l'est du centre-ville et de la rivière Rideau à Ottawa. Le quartier est très intéressant par son histoire, ses grands parcs et sa proximité du centre-ville.
Vanier, c'est un quartier qui est vraiment extraordinaire, rempli de plein de diversité, des gens qui viennent de partout dans le monde. C'est ancré dans une francophonie historique. On y rajoute des peuples autochtones, des peuples inuits, et tous les nouveaux arrivants qui nous arrivent. C'est vraiment une communauté extraordinaire. Moi, ma famille est à Vanier depuis 1947.
Un petit souvenir d'enfance de Vanier?
Les pivoines, c'est le temps de le dire, là, les pivoines. Moi, quand je suis petite, c'est les pivoines de ma grand-mère dans sa cour. Les pivoines le long de la route vers la grotte de Lourdes, qu'on allait pique-niquer là-bas. C'est vraiment des pivoines pour moi, Vanier.
C'est un beau quartier qui accommode tout le monde, tous les secteurs, tous les standards. J'aime Vanier.
Vanier a toujours été une communauté qui s'est serrée, une communauté généreuse, une communauté qui veut partager, une communauté qui veut aider les autres. Alors, avec même la fusion municipale sous la ville d'Ottawa, on a continué cette pratique-là. C'est dans l'ADN des gens ici.
Vous habitez dans le quartier. Qu'est-ce que vous aimez dans ce quartier?
Oui, nous, on vit dans le quartier. Qu'est-ce qu'on préfère le plus? C'est l'aspect francophone et l'aspect communautaire avec nos voisins. Je suis franco-ontarien de naissance. Puis pour moi, c'est important parce que je veux que mon enfant grandisse en français le plus possible. Donc, quand tu veux ça en Ontario, tu choisis une communauté francophone, comme Vanier.
Ah, c'est un quartier qui est en train de croître, en train de reprendre sa place. Pendant plusieurs années, on a vu qu'il y avait beaucoup de commerces qui ont fermé. Puis là, on dirait qu'il y a une recrudescence de différents commerces ou des organisations qui sont en train de rendre Vanier ou le quartier Vanier, entre autres, plus beau et plus attirant.
Qu'est-ce que vous aimez, vous, dans votre quartier de Vanier?
La proximité de tout. On peut marcher, le vivre en français. À Ottawa, en Ontario, c'est pas partout qu'on peut le faire. Les gens, un sentiment de communauté que peu de quartiers ont, à mon avis. Puis ça, c'est grandement à cause de la zone d'amélioration commerciale. Le BIA de Vanier font des programmations exceptionnelles. On est très chanceux.
C'était un reportage de Marie Hillès dans le cadre du programme IJL.
Bonjour, ici Sébastien Beltran à Halifax. Vous écoutez Point de vue, suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI et écoutez nos reportages sur canada-info.ca.
Celle qu'on décrit dans le petit village de Tête-à-la-Baleine, en Basse-Côte-Nord, au Québec, de super vagabonde, est de retour d'un périple au Belize. Après avoir publié un premier livre portant sur son séjour de 9 mois en Australie, Ingrid Anderson Aylstock revient maintenant d'un mois passé au Belize, en Amérique centrale, un voyage qui lui a permis d'écrire le journal d'une super vagabonde-Belize. L'autrice reprend ses aventures de globe-trotteuse là où elle les avait laissées en exposant cette fois ce pays voisin du Guatemala, la Septilienne parce qu'elle est originaire de cette île, dont la mère est native de Tête-à-la-Baleine, avait en 2014 eu la chance de travailler pendant donc un mois au Belize et puis la voilà donc qui écrit un livre sur son voyage. Son journal d'une super vagabonde est publié aux éditions de La Plume d'Oie. Il est disponible depuis le 1er décembre. Pénélope Clermont l'a rencontré.
Bon matin, Ingrid, comment vas-tu?
Bon matin, j'espère bien, toi?
Oui, oui, très bien. Tu fais le tour du monde, puis ça te permet d'écrire des livres, dont le dernier, le journal d'une super vagabonde, c'était à Belize. En fait, c'est que tu reviens sur un périple d'un mois que tu as passé là-bas, là, dans ce pays d'Amérique centrale. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le livre? Qu'est-ce que tu racontes à travers lui?
Bien, en fait, le journal d'une super vagabonde, Belize, c'est vraiment la suite de mon premier livre qui s'était passé en Australie. Je reviens sur mon retour d'Australie, le fait que, mon Dieu, que je ne suis plus la même personne. Je raconte un peu une espèce de comme dépression d'être revenue au pays, puis là, j'en pouvais plus, puis là, je voulais repartir. Puis finalement, j'ai eu une super de belle opportunité qui m'a permis de me rendre au Belize, parce que je connaissais même pas qui
existait
avant même là, d'en avoir entendu parler.
Je dois avouer mon ignorance, moi aussi. Puis pour les gens de la Basse-Côte-Nord, ici, là, j'imagine que c'est pas tout à fait le même climat. Peux-tu nous parler du pays un peu?
Moi, je croyais que la langue primaire, dans le fond, du pays, c'était l'espagnol. Fait que je m'étais apporté un petit dictionnaire de poche espagnol pour être capable de jaser, là, comme tout le monde. Puis j'allais être serveuse dans un restaurant là-bas. Mais finalement, c'est l'anglais. Puis là, ensuite, c'est leur langue là, culturelle. Là. Ça s'appelle le Garifuna. C'est une espèce de dialecte. Moi, j'étais dans un petit village qui s'appelle Hopkins.
Tu dis que l'Australie t'avait changé. Est-ce que Belize t'a aussi changé d'une autre manière?
Pas autant, parce que en Australie, ça a été vraiment un long périple là, de 9 mois. Puis tandis que mon périple au Belize a été quand même assez court. Par contre, c'était la première fois que j'étais face à vraiment à des cultures différentes. Là. Mm-hmm. En Australie, c'est plus... c'est pas très choquant, mais quand je suis arrivée au Belize, c'est quand même... J'ai eu la chance de rencontrer des personnes puis des cultures et des traditions que j'avais jamais connues auparavant. Donc c'est sûr que ça restait imprégné en moi, là.
Tu étais à un endroit où les gens ont rarement l'occasion, en fait, de rencontrer des étrangers. Là. Donc, tu étais vraiment dans un milieu le plus exclusif, j'oserais dire ça. Là.
Il y avait quelques touristes, mais c'est parce que c'est des gens soit qui connaissaient des gens ou qui avaient des maisons là. Parce que c'est vrai que le Belize en tant que tel et encore plus Hopkins. Il a fallu que, une fois rendu au Belize, je prenne un minuscule avion d'une demi-heure, une heure pour nous rendre au village.
C'est-tu plus facile se rendre au Belize qu'à Tête-à-la-Baleine?
Ah, mon Dieu! C'est égal.
Le niveau de chaleur n'est pas le même en arrivant, par exemple.
Non, c'est ça.
Dis-moi, comment t'es venue l'idée de partager tes expériences de voyage comme ça?
J'avais un rêve comme animer une émission de voyage à la télé, sur Canal Évasion ou même sur Zest. Bon, j'ai pas totalement abandonné, mais j'ai quand même essayé là, très, très fort durant de nombreuses années à percer dans ce domaine-là de la télévision, puis j'ai vu que c'est un peu plus difficile que je croyais, donc je me suis dit, s'il y a une chose que je peux faire que personne ne va m'empêcher de faire, c'est d'écrire un livre. Mm-hmm. Ça va me permettre de raconter mes histoires. Donc, c'est ce que j'ai fait et ça a fonctionné.
Effectivement. Dis-moi, ça doit être difficile de faire le tri des anecdotes qu'on vit, des expériences qu'on...
Bien, je suis chanceuse parce que justement, moi, je tiens toujours un journal, donc c'est comme ça que je vais chercher mes anecdotes.
C'est vrai, tout à fait. Puis là, il y a d'autres projets de livres qui sont à venir, si j'ai bien compris?
Je suis à l'écriture de mon troisième déjà.
Ça s'est déroulé aux États-Unis, hein, c'est ça?
Ouais, j'avais juste envie de m'en aller de cette île. Et puis, là, je me suis rappelé que j'avais un oncle qui vivait en Arizona, que je n'avais jamais vu. Fait que moi, j'ai commencé par là, en Arizona, puis là, c'est déboulé un voyage absolument extraordinaire, nullement planifié, de 4 mois.
Wow, OK.
Donc, après les États-Unis, je suis retournée à l'école en tourisme et j'ai eu la chance d'aller travailler au Clumet de Punta Cana, en République dominicaine. Ça serait probablement l'histoire de mon 4e livre. Et pour finir, j'ai eu la chance en 2018 d'aller visiter l'Ukraine et j'ai fait des capsules vidéo culinaires là-bas. Donc, ça s'appelle Cuisine Vagabonde et c'est ce que je suis allée réaliser là-bas. C'est un beau livre, je pense qu'il y a des belles histoires que je peux raconter à travers mon expérience ukrainienne.
Oui, puis pour t'inspirer même dans la rédaction de ce livre-là, tu pourras venir au village. On a maintenant une famille ukrainienne qui réside.
Oui. C'est vrai, total.
Vous pourrez vous raconter plein d'anecdotes là, du pays. Vous venez d'entendre Ingrid Anderson-Aylstock qui nous parlait de son 2e livre, Le journal d'une super vagabonde, Belize, publié aux éditions La Plume d'Oie depuis le 1er décembre.
Bonjour, ici Maxime Gauthier à Saint-Quentin. Vous écoutez Point de vue.
On quitte la chaleur de l'Amérique centrale et du Sud pour remonter tout au nord et en plein milieu de l'océan, où on nous apprend que 4 provinces atlantiques canadiennes et l'archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon viennent de lancer le 28 septembre dernier la Coalition atlantique francophone de facilitation économique, ou la CAFE. Cette coalition, on le devine, doit agir comme catalyseur de développement économique entre les 4 provinces du Canada atlantique et Saint-Pierre-et-Miquelon. La coalition rassemble donc un grand nombre de partenaires, parmi eux les réseaux de développement économique et d'employabilité du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'île du Prince-Édouard, mais aussi Horizon Terre-Neuve-Labrador, Horizon TNL et la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'Agence de promotion du Canada atlantique a participé au financement de cette initiative transatlantique, si on peut dire. Adèle Gros-Perrin est à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Elle est en compagnie d'André Leblanc, gestionnaire des services en affaires et entrepreneuriat pour le Conseil économique de la Nouvelle-Écosse.
Les objectifs principaux de la coalition seront de favoriser vraiment les échanges d'expertise entre les organisations. Et ce partage de savoir-faire là, target vraiment un résultat de meilleure compréhension des opportunités potentielles de collaboration entre les 5 régions qui nous permettra de développer les échanges économiques entre les provinces atlantiques et Saint-Pierre-et-Miquelon. Et ça se paye par des missions exploratoires, par exemple dans le domaine maritime, tourisme, etc., afin de vraiment avoir une meilleure connaissance des opportunités d'échange économique. Et 3, de co-construire et maintenir vraiment le lien entre les membres de la coalition. Des exemples de ça, c'est que ce soit l'industrie navale, l'aquaculture, le tourisme de plaisance ou expérientiel, la transformation des produits de mer, c'est toutes des exemples des industries qui sont très semblables pour nous. C'est certain qu'il y a des enjeux qui sont très similaires, non seulement juste entre nous les partenaires, alors les 4 provinces atlantiques, mais aussi avec l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est la langue quand même qui nous connecte tous ensemble avec le peuple de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et l'histoire acadienne est apparente là en même temps. Et il y en a peut-être qui connaissent pas cette connexion-là. Et vraiment là, non seulement qu'il y a une réelle volonté de collaborer entre nous, nous voyons aussi vraiment le potentiel du bénéfice des échanges. Et rien que pour te partager un petit exemple de ça. Par exemple, une problématique qui faisait face à un épicier de Saint-Pierre cette entreprise-là a rencontré des problématiques avec son fournisseur de légumes et de fruits biologiques. Et avec ces échanges-là, on a pu proposer peut-être des solutions. Vraiment, ce qui est la beauté de ce type de travail-là, c'est la possibilité d'échange entre des producteurs atlantiques pour expansionner leurs possibilités d'exportation et répondre en même temps à une problématique réelle sur le terrain à Saint-Pierre.
Du coup, qu'est-ce qui va se passer là prochainement? C'est quoi le prochain projet?
On attend l'ouverture des propositions de projet prochainement entre Saint-Pierre et Miquelon et le Canada Atlantique. Il faut dire quand même, on a eu l'opportunité de visiter une variété d'entreprises durant ces rencontres-là. Alors, on a pu visiter une entreprise qui fait la production de laitue en établissement hydroponique vertical en plus. Là, c'est un petit peu différent. La production de champignons, des distilleries, une ferme à légumes, une entreprise en tourisme expérientiel, et si je me souviens bien, une entreprise d'aquaculture qui fait la production des moules. Et ici, dans le coin sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, on appelle ça des moules. Non, faut que je dise, c'est extrêmement enrichissant les rencontres que la coalition a pu avoir, non seulement avec les entreprises, avec les individus sur le terrain, au niveau du développement économique à Saint-Pierre-et-Miquelon. On parle le même langage, on a les mêmes défis et on a les mêmes opportunités. On a grand espoir dans le développement de ces relations de plus près.
Voilà, on vous laisse au milieu de l'eau rêvasser un peu et c'est sur ce dernier reportage qu'on vous annonce nos vacances des prochaines semaines alors que nous ferons une pause pour vous livrer deux émissions en reprise au cours des prochaines semaines. On vous retrouve de l'autre côté de 2023. Nos journalistes Marie Hillès, Aurélie Forsen, Adèle Gros-Perrin et Pénélope Clermont. Notre coordonnateur national est Stéphane Bénard. J'en profite en cette fin d'année pour saluer toute l'équipe du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa pour qui je prépare en français et en anglais les émissions de Point de vue et Viewpoints. Bonnes vacances à Alex Friedman, Emmanuel Sayer, Antti Bass-Dial, Stéphane Bénard, Charlotte O'Brien et Maureen McEwen, et à la vaste équipe du conseil d'administration qui travaille fort, comme nous tous, à renforcer et à alimenter le secteur de la radio communautaire et universitaire au pays. Et à vous, on vous remercie aussi, vous qui nous êtes fidèles, vous qui soutenez aussi par votre présence et votre participation le secteur de la radio communautaire au pays. Merci d'être à nos côtés. On souhaite à tout le monde tout le meilleur et surtout la santé et la paix. Bon repos, n'exagérez pas trop. Ciao.
Canada LGI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.